Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et nous allons continuer la prédication de dimanche dernier. Elle était trop longue et donc j'ai coupé. Romains chapitre 8. Et nous allons commencer à lire au verset 28 jusqu'à la fin du chapitre. C'est ce passage-là dont le but est de nous rassurer pour ce qui est de notre salut, de notre vie. Donc Romains chapitre 8 et verset 28 jusqu'à la fin du chapitre. Je vais lire. Les versets qui vont nous intéresser ce matin vont être les versets 29 et 30. Verset 28. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, combien ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Sans explication, on a compris que si nous sommes en Jésus-Christ, eh bien, c'est garanti. Nous revenons sur ce passage du verset 29. Donc, qui nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils ». Cette partie-là, nous l'avons traitée dimanche dernier. Nous sommes prédestinés, ceux qui sont enfants de Dieu, sont prédestinés à être à l'image de son Fils, l'image de son Fils dans la gloire, et nous serons semblables à lui un jour. La deuxième partie nous dit « afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères ». Et donc là, c'est nous les frères, hein, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc dans cette prédestination, dans ce projet que Dieu a, qu'il veut réaliser pour ses enfants, il y a cette idée-là. Et je voulais juste évoquer quelques versets. Donc, par exemple, un premier, ce serait dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6. On va faire que lire le passage. Mais Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6, eh bien, il dit, c'est ce passage qui nous évoque toutes les choses que nous savons et que nous sommes en Jésus-Christ. Hein. Et donc, c'est le passage où vous pouvez compter les « en lui », en Christ, tout ce que nous avons en Christ. Donc, à partir du verset 4, il nous dit « En lui, Dieu nous a élus ou choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, donc faire de nous ses enfants, et nous en avons parlé il y a quelques semaines, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc c'est ce qu'il veut faire, il n'y a personne qui l'oblige, il le fait avec plaisir, il veut nous recevoir, quelles que soient nos origines, quel que soit notre passé, eh bien il veut nous recevoir. Et pourquoi? En verset 6, il nous dit « pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé ». Et donc, il dit, nous avons été prédestinés à être des enfants d'adoption pour célébrer la gloire de sa grâce. Les anges ne peuvent pas célébrer la grâce de Dieu parce qu'ils n'en ont pas bénéficié. Ils sont dans la gloire, ils louent la gloire de Dieu, ils la sainteté de Dieu, mais la grâce de Dieu, ils ne la connaissent pas. C'est nous qui avons reçu Jésus-Christ, qui pouvons louer Dieu pour sa grâce, parce que nous en sommes bénéficiaires. Et donc Dieu aura une chorale spéciale qui vient de la terre, c'est des pécheurs à l'origine, mais qui vont pouvoir louer la grâce de Dieu. Et les anges vont être là, et c'est comme ça que je l'imagine, ils vont être là et se dire, mais c'est quand même extraordinaire ce que Dieu a pu faire. Et les gens louent, on les connaît, hein. Et regarde ce que Dieu a pu faire d'eux. Et dit Dieu leur a fait grâce et regarde ce que ça a donné. C'est merveilleux. Hein? Et donc, c'est pas étonnant que Dieu, eh bien, veuille qu'il y ait une chorale qui puisse le louer, mais de par leur expérience, de ce qu'ils ont vécu, puisse le louer et louer pendant l'éternité sa grâce. Un autre passage se trouve dans Hébreux 2, 11, et je le lis, il dit « Celui qui sanctifie et celui qui sont sanctifiés sont tous deux issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. » Lui n'a pas honte de nous appeler ses frères. Est-ce que nous avons honte d'appeler Jésus notre Seigneur? Est-ce que... Tout à l'heure, on parlait du nom de Jésus. Et ben, si vous mettez sur votre porte d'entrée d'appartement, vous dites « j'aime Jésus ben, », tout de suite, ça vous catégorise. Ça vous aide. Ben, tout de suite, les gens, dès qu'ils arrivent à la porte, « j'ai affaire à quelqu'un qui aime Jésus ». Ça dit quelque chose. Même s'il n'est pas croyant, ça lui dit quelque chose. Et donc, il dit « lui n'a pas honte ». Et nous ne devons pas avoir honte et de dire, mais ce n'est pas seulement de dire je suis chrétien, parce que ça veut tout dire et rien dire, hein. Mais dites j'aime Jésus, alors là ça dit quelque chose. Hein. Là, vous ne évoquez aucun clocher et vous ne distinguez de ceux qui sont chrétiens de nom, vous dites moi j'aime Jésus. Ça dit, c'est merveilleux, ça, en peu de mots, vous dites beaucoup de choses et vous vous placez quelque part. Hein, donc, n'ayons pas honte, lui n'a pas honte de nous appeler ses frères. Hein, il n'a pas dit, bon, ce sont mes rachetés, c'est des gens que j'ai récupérés, voilà, ça c'est les gens, j'ai voulu faire du bien, j'ai eu pitié d'eux, puis j'ai voulu... Non, nous sommes ses frères. Il y a un autre verset. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait, finalement, on l'a vu, vous êtes en Romains chapitre 8, et au verset 17, hein, il nous dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Héritiers, co-héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Vous dites, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est possible. Il dit, oui, mais c'est l'adoption de Dieu rend cela possible. C'est ça qu'il a désiré. Dans en pensant à tous les enfants, à tous ceux qui croiraient en lui, tous ceux qui seraient justifiés, il a dit, moi, je vais faire quelque chose de spécial. Ce n'est pas juste une question de les sauver, mais c'est une question de je vais les prédestiner à être mes frères. Et même dans 1 Corinthiens 15, là encore, l'apôtre Paul élabore un peu plus en parlant de la résurrection. Et il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, c'est-à-dire lui, il est ressuscité le premier, et les autres, ça arrive. C'est ça qui nous prouve que nous allons ressusciter, parce qu'il est les prémices. S'il y a les prémices, c'est que le reste arrive. Hein? Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, donc Adam, c'est aussi par un homme, donc Jésus, qui est venu la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui lui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc il dit, c'est, voilà, vous, par votre naissance naturelle, vous êtes trouvé descendant de Adam, du premier Adam, et donc pécheur. Mais par de votre naissance, nouvelle naissance, eh bien vous êtes rentré dans une autre famille, une autre descendance, qui a une autre destination, une autre destinée, et il va nous reconnaître. Donc, voilà ce qu'il est en train de nous dire. Il dit, voilà, vous êtes prédestiné à être à l'image de son fils, donc à le ressembler. Hein? Et puis, deuxièmement, eh bien, vous serez avec lui, autour de lui. Je reviens à Romains 8 maintenant. Et je veux, parce qu'il faut toujours situer ce passage là où il est, hein, parce que Romains, il a développé, hein, depuis Romains chapitre 1, il a montré combien nous sommes pécheurs. Ensuite, il a dit que si c'est par la foi que nous pouvons être justifiés, et à ce moment-là, nous devenons enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, eh bien, nous sommes adoptés dans la famille. Et donc, on arrive au verset 8, au chapitre 8. Hein, parce que, et donc, maintenant, je lis le verset 30. Hein, le verset 30, il est situé là où il doit être situé. Et c'est un verset qui évoque de belles choses, de belles promesses. Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Paul n'est pas en train de donner une chronologie ici. Il n'est pas en train de dire, bon, ça commence par une prédestination, puis ensuite il y a un appel, puis ensuite il y a une justification, et ensuite il y a une glorification. Il n'est pas en train de... Ce n'est pas une chronologie, parce que sinon, la fin, là, ce serait un peu... le fait d'être glorifié serait au futur. Hein, donc il n'est pas en train de donner chronologie, et sachant que ce passage, c'est pour nous rassurer, c'est-à-dire tout ce qu'il dit, c'est pour nous rassurer que nous sommes réellement sauvés. En fait, ce qu'il est en train de... s'il voulait nous parler d'une prédestination qui prédestine certains à la vie et d'autres à la perdition... Eh bien, si c'était le cas, il aurait dû le mettre dans le chapitre 3 et entre les versets 20 et 21, parce que jusqu'au chapitre 3, verset 20, il nous dit « Vous êtes pécheurs », donc d'accord. Et à partir du verset 21, il commence à nous parler de la justification par la foi. Donc s'il y avait une prédestination de certains à la perdition et pour d'autres au salut, ben, c'est là qu'il aurait dû commencer à en parler. Mais il n'en parle pas. Il parle des pécheurs, ensuite il dit « Vous êtes justifiés par la foi ». Et ce n'est que ici, quand il nous parle de notre sécurité, de notre salut, il parle de prédestination. Il dit, pour ceux qui ont cru, ceux qui sont nés de nouveau, eh bien, voilà ce que j'ai préparé pour eux. Et c'est moi qui l'ai préparé, donc c'est garanti. Et alors, si je devais relire ce verset, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est... celui qui a été prédestiné à être semblable à l'image de son fils a forcément été appelé. Et celui qui a été appelé par Dieu a obligatoirement été justifié. Et toute personne justifiée sera inéluctablement glorifiée. En fait, il va dire, si tu l'as, tu as l'autre. Peut-être que un ou l'autre, c'est plus clair pour toi, mais si tu as l'un, tu as l'autre. C'est-à-dire, c'est un colis, c'est un package, et Tout y est. Et donc, pour ce qui concerne la prédestination, l'appel, la justification, la glorification, eh bien, il est impossible de recevoir l'un sans l'autre. Donc, soyons rassurés pour ce qui concerne notre salut. Hein, c'est, si tu l'as, tu as le reste. Donc, peut-être que tu ne te sens pas très glorifié encore, mais oui, mais si tu te sens la paix avec Dieu, tu te sens justifié devant Dieu, eh bien, sache que le reste est là, hein, même si tu ne le vois pas. Il y a le terme « appelé » là qui parfois gêne les gens et des fois il y a des confusions entre « appelé » et « élu ». « Appelé », bon, on sait ce que ça veut dire, mais il n'y a pas de mystère dans ce mot-là, hein, c'est « appelé ». Donc il y a une voix qui appelle quelqu'un. Hein. Et puis « élu », élu, bon, ça veut dire « choisir hein, », ça ne veut pas dire autre chose, c'est « choisir ». Mais les deux mots sont utilisés dans cette parabole, donc je vous invite à regarder dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, on voit ces deux mots, et à la fin de la parabole, une fois que la parabole est terminée, Jésus ajoute cette phrase, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Déjà, ça me donne l'impression que, bon, ben, ils ne veulent pas dire la même chose. Hein. Appeler, c'est une chose, être élu, c'est autre chose. Mais maintenant, regardons la parabole pour comprendre ce que ça veut dire, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, alors ça veut dire quoi? Et la parabole, donc commençons au verset 2. Je lis la parabole, Matthieu 22, et au verset 2, il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. » Donc ils avaient déjà été invités, maintenant c'est le moment de venir. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils y trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et s'aperçut d'un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Qui boit. D'accord, j'ai compris l'histoire, mais je ne comprends pas cette dernière phrase par rapport au reste. Eh bien, rapidement, hein, cette parabole, c'est une parabole prophétique. Hein, c'est Matthieu 22, la crucifixion de Christ arrive, et c'est une parabole prophétique, Jésus est en train de dire ce qui va arriver sous peu. Il fait référence à ce qui va arriver juste après Pentecôte. Hein, Pentecôte, vous savez, c'est l'Esprit de Dieu qui descend. Pierre se lève et dit, « Voilà, mes frères, celui que vous avez crucifié, ben, c'était le Christ. Mais Dieu l'a ressuscité. Hein, » Donc, c'est quelque chose qui arrive juste là. Et les invités au festin, ceux qui étaient convives, c'était le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui, depuis longtemps, et Jésus, pendant tout son ministère, eh ben, il annonçait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. L'invitation est là. Mais bon, ils n'ont pas compris, ils ne comprenaient pas, et tout ça, d'accord. Bon, je comprends qu'on ne comprenne pas tout à fait. Parce que quand on a été éduqué d'une certaine manière, c'est difficile de penser autrement. Mais après Pentecôte, tout d'un coup, tout s'éclaircit, tout est clair. Hein, les Juifs ont compris que, alors, frère, Que ferons-nous ? Ainsi, tout d'un coup, tout est clair. Et là, Dieu donne l'occasion à Israël de venir. Il dit maintenant, vous aviez été invités, mais maintenant, tout est prêt. Christ est mort, Christ est ressuscité, tout est en place. Le royaume peut s'établir. Mais qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, il y a de l'indifférence et même jusqu'à la persécution. Et c'est ce qui est arrivé à Pentecôte, à Jérusalem. Certains ont dû. Et puis d'autres, ben, ils ont persécuté. C'est arrivé jusqu'au point où on a lapidé Étienne. Et c'était la dernière invitation de la part de Dieu. C'était une situation où tout était clair. Et alors, vous savez ce qui est arrivé. Et il nous dit, le roi, eh bien, il a envoyé l'armée qui a brûlé la ville. Eh bien, c'est ce qui est arrivé en l'an 70 à Jérusalem. Titus, qui est par la suite devenu empereur, Titus, avec son armée, a pris, fait le siège de Jérusalem, et par la suite, il l'a prise, et c'est là où le temple d'Hérode a été rasé, et il a tout rasé, il a laissé qu'un pan du mur de Jérusalem, mais là, c'était un massacre, je ne vais pas rentrer dans les détails là. Et donc, là, c'était. Il y avait une invitation, ils ne sont pas venus. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit ? Et c'est ce qu'il dit dans cette parabole. Donc, comme ils ne sont pas venus, eh bien, allez inviter tout le monde. Et c'est ce qui est arrivé après l'Église primitive, tout d'un coup. Eh bien, allez inviter tout le monde. Les païens, tout le monde, personne est privilégié. Tous sont invités. Il dit les bons et les mauvais, tous sont invités. Et c'est le cas, et la porte est encore ouverte, encore aujourd'hui. Ensuite, il ajoute un petit détail. Il dit, voilà, tous sont là, et parce que c'est des gens qui viennent de partout et de toutes sortes d'arrière-plans. Alors, le roi avait prévu qu'à l'entrée, quand on rentrait dans la salle de noces, eh bien, chacun recevait un habit. Et donc, il n'y avait pas comme ça tous le même habit. L'avantage de l'uniformité, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Hein. Quand tous sont habillés pareil, il n'y en a pas un qui se sent meilleur que les autres. Et donc, chacun reçoit un habit, et tous sont là, tous sont bien habillés, et le roi rentre, et puis il y a quelqu'un qui n'est pas habillé pareil. Oh, certainement que c'était quelqu'un qui avait mis un bel habit, quand même, mais c'était pas pareil. Il dit, mais tu passais par où, toi ? Et le gars, il n'avait rien à dire. Parce que si on était passé par la porte, il y avait des habits. Mais il était essayé d'entrer, même si son habit était propre, mais il avait fourni son propre habit. Et le roi n'a pas accepté. Mais c'est une image du salut que nous avons en Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de « moi je viens avec mes bonnes œuvres, avec ma justice et tout ça ». Ça ne passe pas. Il dit « vous devez être revêtus de la justice de Christ ». Il faut passer par la porte. Et on doit venir à Jésus-Christ qui est la porte. Et nous devons nous présenter. Là, nous recevons la justice de Christ. Nous sommes habillés. Et là, nous pouvons entrer. Et vous savez, quand on est habillé, revêtu de la justice de Christ, quand le roi arrive dans la salle, eh bien, il voit tout le monde et puis il dit, moi, c'est quoi ? C'est bon. C'est bon. Et on n'a rien à craindre. Parce qu'on est revêtu de la justice de Christ, du pardon. Et ça, nous pouvons le porter au ciel. Mais nos propres amis, ça ne va pas loin. Cet homme-là, eh bien, il a été mis dehors. Et donc, c'est important que nous comprenions. Et alors, c'est dans ce contexte-là, il dit, eh bien, beaucoup ont été appelés, c'est-à-dire beaucoup ont été invités, hein, beaucoup de monde a été invité, mais ceux qui sont rentrés, eh bien, c'était ceux qui sont passés par la porte, ceux qui ont revêtu la robe que Dieu fournit, hein, donc la justice de Christ, et c'est eux qui ont pu entrer dans la gloire. Et donc, nous voulons, hein, ce qui est important pour ceux qui nous concernent, hein, c'est que je veux passer par la porte, être sûr que je suis passé par la porte, qui est Jésus-Christ. Je suis venu, tout à l'heure on disait le nom de Jésus, l'importance du nom. C'est vrai, on ne peut, c'est par lui qu'on vient. Hein, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je vous rappelle que c'est Jean 14, 6,
C'est une parole que Jésus a dit à ses disciples dans la chambre haute. Ce n'est pas quelque chose qu'il a dit à la foule, quelque chose qu'il a dit à ses disciples. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Hein, » Donc, chaque fois que vous venez, vous, mes disciples, c'est toujours par moi, hein, pas autrement. Venez pas avec votre propre habit, venez en mon nom, revêtu de ma justice. Et donc, c'est important tout cela. Alors, après, il y a très bien, c'est par la foi, hein, j'ai compris, je viens, il a dit, vous venez comme vous êtes, et puis vous arrivez à la porte, et on vous donne un nouvel habit, vous rentrez, et tout le monde est bon. Revêtu de la justice. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Mais tout à l'heure, vous vous souvenez, dans Éphésiens, chapitre 1, on a lu, il dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. » Et cette idée de « élus avant la fondation du monde », ben, elle gêne certains. Il dit parce que si les croyants sont élus avant la fondation du monde. Et puis 1 Pierre 1, 2 nous dit, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc il dit, on est élu avant la fondation du monde, élu par la préscience de Dieu, hein, cette capacité qu'il a de prévoir ce qui va arriver, eh bien, il a formé un peuple. Et donc, ce que ça dit, c'est que quand on a le mot élu, eh bien, ça veut dire qu'il a choisi. Dieu a choisi un peuple. Et c'est un choix que Dieu a fait avant qu'on entende de l'invitation, on entende l'évangile. Pour nous, ce qui nous concerne ici sur terre, nous avons besoin d'entendre l'évangile, nous avons besoin de répondre, venir à Jésus-Christ, et ensuite nous recevons le pardon. Il nous dit que mais Dieu, déjà, il avait un projet dans la gloire. Et vous savez, c'est ce qui est extraordinaire chez Dieu, et on le voit plusieurs fois dans la Bible, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans le ciel, et il y a des choses qui se passent sur terre, parallèlement. Pensez à l'histoire de Job, par exemple. Job, lui, ne voyait que ce qui se passait sur terre. Nous, quand nous lisons le livre de Job, on voit ce qui se passe devant Dieu et ce qui se passe sur terre. Et il y a un moment où les choses se rejoignent et la fin, le dernier chapitre de Job, c'est un merveilleux chapitre de restauration et de bénédiction. Job, lui, n'a pas compris, il a fait ce qu'il savait faire, il a été fidèle, il a eu confiance, mais Dieu était en train de faire quelque chose dans la gloire. Vous lisez le livre de l'Apocalypse, hein, même si vous avez, sans théologie, rien que de lire, vous voyez qu'il y a des événements qui se passent au ciel, il y a des événements qui se passent sur terre. Et puis il y a un moment où les choses se rejoignent à la fin, quand Christ vient sur terre avec les saints, et puis on rentre dans les promesses et la réalisation de Dieu. C'est une manière de faire de Dieu. Et donc, le fait que Dieu a fait quelque chose avant la fondation du monde, avant la création, il a déjà préparé un plan, et pouvons prévoir toute chose, il a tout vu, il a tout mis en place, il a dit voilà, j'ai tout bien fait, et c'est pour ça qu'il a pu dire, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Il a dit j'ai tout vu, j'ai tout mis en place, c'est bon. Une fois que Dieu a pensé quelque chose et qu'il a décidé que ça se fasse, c'est comme si c'était fait. Et après, il y a nous sur terre, on est là, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas trop ce qui se passe là-haut, mais nous avons notre cheminement. Et donc, pour nous, hein, notre préoccupation, ce n'est pas ce que Dieu fait et comment il le fait, ce qui nous intéresse, c'est ce que nous devons faire. Et donc, nous sommes pécheurs, nous entendons l'évangile de Christ qui nous dit que Christ est mort pour nos péchés, et si nous lui demandons de pardonner, il nous pardonne. Et donc, on vient. On demande le pardon de Dieu, il faut le demander, hein, pas l'espérer ou le désirer, mais il faut le demander, parce que Dieu respecte notre volonté, donc on doit l'exprimer, et on dit « Sauve-moi, pardonne mes péchés, je sais que je suis un pécheur, je veux être sauvé », et on rentre, et alors il dit « Je te reçois la vie nouvelle, je te revais de ma justice ». Et devant Dieu, quand il regardera dans la salle, et bien il verra tout le monde habillé de la robe qu'il a pourvue. Et donc, il y a un moment où bien ça se rejoint et Christ vient nous prendre dans la gloire. Et puis là, tout d'un coup, ah, c'est ça que tu avais prévu, c'est ça que tu avais pensé, tu avais préparé pour nous. Nous, sur Terre, on avait du mal à imaginer tout ça. On n'a pas compris, on avait beaucoup de questions. Il y a des choses qu'on a fait par la foi. Mais quand on arrive dans la présence de Dieu, on dit, waouh, c'est formidable tout ce que tu as préparé. Et ça, c'est pour nous qui sommes des pécheurs. Oh, si on avait pu vivre pour toi encore plus, si on savait tout ça, on aurait... Il dit, mais je vous l'ai dit, mais vous n'avez pas fait attention. Mais il a préparé des choses merveilleuses pour nous. Dites, Steve, tu rêves. Eh bien, peut-être, si je rêve, c'est beau. Et si c'est vrai, c'est encore plus beau. Et trouvez-moi quelqu'un qui a mieux à proposer. Ses rêves sont moins bien. Et la réalisation est encore moins sûre. Et puis en plus, ça me donne une raison de vivre, comme je vis. Tout à l'heure, je plaisantais avec quelqu'un, je dis, mais moi, la retraite, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que j'aime ce que je fais. Je n'ai pas envie d'arrêter, je veux continuer. J'aime. C'est de pouvoir donner ce message à des gens et de voir les vies transformées. Et puis des gens qui marchaient la tête basse, tout d'un coup, ils lèvent les yeux, ils ont de l'espérance. Et c'est agréable. Si je peux vous donner un petit exemple de comment ça marche. Vous connaissez le jeu des échecs. Bon, déjà, ce n'est pas intéressant, on aurait préféré y avoir un jeu de gagnants. Bon, ça s'appelle le jeu des échecs. Il y a toujours un perdant. Imaginez un as des échecs qui joue avec un novice, quelqu'un qui vient de lire les règles et il veut jouer. Si vous connaissez le jeu d'échecs, vous savez que l'as, il ne fait que s'amuser. Il le fait, il est là, il le laisse jouer, il dit « fais ce que tu veux ». Mais on sait déjà la fin. Parce qu'un jeu d'échecs, il n'y a pas de chance. C'est où tu as bien fait ou tu as mal fait. C'est un jeu où il n'y a pas de chance. Et donc, l'as, il contrôle tout, il fait tout. Il met l'autre dans des situations, il fait ce qu'il est obligé de faire. Et jusqu'au moment où c'est mat, et puis c'est la fin. Ben, Dieu, un peu, eh bien, il est l'as du jeu. Et nous, eh bien, on est des novices dans la vie. On est là en train de découvrir. On fait plein de bêtises avant de comprendre certaines choses. Peut-être pas vous, mais moi, en tous les cas, des fois, il fallait répéter la chose plusieurs fois pour comprendre. Mais, et puis, et Dieu, dans sa grâce, il est en train de jouer, et puis il m'amène à ce point. Pour moi, c'est mat, mais finalement, dans l'Évangile, c'est pas un échec, c'est la gloire. Et donc, son jeu est plus sûr. Parce qu'il sait où il va. Nous avons dit que Dieu est un Dieu souverain qui, grâce à sa préscience, eh bien, il peut jouer. Comme un as des échecs, il voit tout le jeu. Même s'il ne contrôle pas la volonté de l'autre, déjà il voit ce qui va se faire. Et il le prévoit. Il voit toutes les possibilités. Ben, si un homme peut faire ça, combien plus Dieu peut le faire ? Et nous sommes là. Et en plus, c'est quelqu'un qui va peu. Il ne cherche pas notre perte, il cherche notre bien. Peut-être pas le Dieu que beaucoup de gens imaginent, mais le Dieu de la Bible cherche notre bien. C'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui veut être loué pour sa grâce, pas pour sa justice. Je reviens à ce verset de Éphésiens, il dit. Que nous avons été élus avant la fondation du monde, Éphésiens chapitre 1, donc euh, Éphésiens chapitre 1, il dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Il nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables. Il nous a choisis pour cela. Il a dit, moi, je vous ai choisi, d'accord, j'ai fait le nécessaire, mon fils est mort sur la croix pour que ce soit possible, je t'ai annoncé, je t'ai dit ce que tu as à faire, tu as répondu, maintenant, sache que tout ça, ça a été fait pour que tu puisses vivre une vie sainte et irréprochable. En tous les cas, nous pouvons tendre vers cela, hein, c'est l'intention, hein, Paul dira aux Philippiens et dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » C'est pas qu'elle est encore parfaite, il le sait. Mais celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est ce qui me rassure, parce que si ça dépendait de ma performance maintenant, ben, il faudrait que je vive longtemps. Hein. Et encore, je ne sais pas. Mais il dit Et 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16, nous dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » C'est ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Il dit « Vous serez saints parce que je suis saint. » Il nous le répète encore, parce que c'était sa pensée pour l'humanité. Hein, c'est pas juste une question que vous soyez innocents. C'est une question que vous soyez saint, c'est-à-dire que vous avez choisi d'être à Dieu. Et ça, c'est là l'objet, c'est l'objet de notre préoccupation en tant qu'enfant de Dieu. Pas d'essayer de comprendre ce que Dieu n'a pas expliqué, mais de comprendre notre responsabilité. Il nous dit de vivre. Et là, c'est là où le christianisme en général a été un peu... c'était l'échec parce que ça n'a pas toujours été ce qui est saint et ça fait que beaucoup, le nom de Christ parfois il est rejeté, le christianisme est rejeté, beaucoup de choses, pas parce que l'évangile n'est pas bien fait, mais parce que les chrétiens ne se concentrent pas sur cette vie de sainteté et qui ne tendent pas vers cette d'être irréprochable. Hein, Jésus, ça, lui, il était là, hein, il l'a fait, hein, ils étaient obligés de mentir pour trouver quelque chose pour l'accuser. Hein, donc, bon, pour nous, on n'est pas obligé de mentir pour trouver des choses contre nous, mais essayons de quand même de rendre difficile, la tâche difficile, hein, et vivre pour Christ. Et donc, Dieu a dit, je vous ai préparé, j'ai préparé un bon plan que je suis en train de réaliser dans le ciel. Je vous ai donné un plan pour vous sur terre. Voilà votre démarche, voilà ce que vous avez à faire. Et puis, on va se rejoindre et on aura fait quelque chose de très bien, à la gloire de Dieu. Et donc, maintenant que je sais que je suis sauvé, c'est pas une question de... Ben, je sais que je suis sauvé, bon, voilà, je suis sauvé, hein, alléluia, moi je ne demande pas plus, et puis maintenant je fais ce que je veux, tout ça. Non, non, non. Si tu as bien compris ce que ça veut dire d'être sauvé par le sang de Christ, eh bien, ça va influer sur ta manière de vivre chaque jour. Tu vivras une autre vie. Je dis, mais après tout ce qu'il a fait pour moi, qu'est-ce que je vais faire pour lui, hein, pas pour gagner le ciel, mais parce qu'il m'appartenait. Et c'est ça la reconnaissance. C'est vivre cette reconnaissance de chaque jour. Et donc, nous devons lui donner cette importance. Et parce que j'ai tout en lui, et ceux qui ne sont pas en lui, ben, ils n'ont rien. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vivre de manière à ce que les gens soient attirés, disent, mais toi, qui est-ce qui fait la différence dans ta vie? Il y a quelque chose, c'est pas pareil chez toi. Il y a autre chose, quand on vient chez toi, c'est pas pareil. Quand on discute avec toi, là où tu passes, les choses se calment. Les choses, tu apportes la paix, tu apportes le... Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il faut être prêt à répondre. Hein. Dire, mais écoute, c'est Jésus. C'était un peu je crois que j'ai déjà raconté ça, mais c'était le voisin à Saint-Denis et il nous avait observé pendant un certain temps à l'église. Et puis un dimanche, j'étais à la de bonheur, il était en train de se promener devant chez lui, là, et puis il a dit, mais comment vous faites? J'ai dit, faites quoi? Il dit, comment vous faites? J'ai dit, quoi? Il dit, mais comment vous arrivez à tous ces gens-là, ça se passe bien chez vous dans votre église? On a l'impression que les gens, ils s'entendent, ils s'aiment, ils sont contents d'être là, ils viennent, et tout ça, comment vous faites? J'ai dit, ben c'est Jésus. Il dit, ah non. Et j'ai dit, bah, écoutez, je ne sais pas autrement, hein, pour moi c'est Jésus, l'amour de Jésus et tout ça. Il dit non. Et après il dit, parce que moi j'étais un gradé chez les légionnaires, j'avais du monde partout, de toute nationalité, et on avait des problèmes. Il dit, allez-vous, comment vous faites? Parce que vous voyez, vous avez tout ce que moi j'avais. J'ai dit, bah, c'est Jésus, il a dit, bon. Oui. Bon. Non, en tous les cas, pour nous, c'est Jésus. On n'a pas d'autre explication. C'est Jésus qui fait la différence. Et que ça soit vrai, lorsque nous vivons pour le Seigneur, au sein de nos familles, au sein de notre quartier, au sein, là, sur notre site d'emploi, parmi nos fréquentations, le Seigneur nous a laissés dans le monde, ce n'est pas pour qu'on devienne comme le monde, mais pour que le monde voit que lui est encore à l'œuvre. Et que les choses n'ont pas changé. Oh, que le Seigneur nous aide, et nous allons nous arrêter là, et nous allons quelques moments, je vais vous donner quelques moments de silence pour que vous puissiez revoir certaines choses et peut-être dire, Seigneur, oui, j'ai un peu négligent sur ce point-là dans ma vie, ou je voudrais être rassuré sur ce point-là, est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu, parce que je ne vois pas l'évidence dans ma vie. Demandez au Seigneur. Ou bien, si vous êtes plein de reconnaissance, dites merci Seigneur. Et ensuite, je prierai.